Le journal Marc Potvin. Bonjour Marc.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. De nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus attendues en Guadeloupe, à Marseille et à Bordeaux. Mesures réclamées aux préfets concernés par le Premier ministre pour éviter un reconfinement partiel ou total. L'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine appelle chacun à la responsabilité.
Le reconfinement qui deviendra réalité en fin de semaine en Israël. L'un des pays au monde qui a enregistré le plus de cas de coronavirus par habitant ces deux dernières semaines. Reconfinement pour au moins 3 semaines, nous dira notre correspondant à Jérusalem.
Quelle issue pour les élections régionales et locales partielles en Russie ces 3 derniers jours? Résultat officiel attendu aujourd'hui, mais déjà des irrégularités sont signalées au profit du parti de Vladimir Poutine.
Et puis la disparition d'un ancien ministre, député et grand médecin, Bernard Debré meurt à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer. Nous reviendrons sur sa carrière et sur son tempérament. Il n'avait pas sa langue dans sa poche.
Et puis de nouvelles analyses débutent aujourd'hui pour lever un mystère, pour déterminer si un cercueil dans le sous-sol d'un musée de Bordeaux abrite la dépouille de Montaigne. La question du jour après le journal Guillaume.
Eh bien Marc, test Covid, quelle stratégie pour un dépistage massif? Je poserai la question à François Blanchecotte, il est président national du syndicat des biologistes.
Quelles nouvelles mesures à Bordeaux, Marseille ou en Guadeloupe pour lutter contre l'épidémie de coronavirus? La réponse est donc attendue aujourd'hui et ce sont les préfets concernés qui vont la donner. Mission confiée par le Premier ministre Jean Castex qui s'inquiète de l'évolution des contaminations sur place, notamment chez les personnes âgées. Olivier Serre est le directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Pour lui, à Bordeaux comme ailleurs, il faut se montrer responsable.
L'enjeu principal, c'est de faire que chacun d'entre nous, et notamment quand on a 20-30 ans, on puisse prendre les recommandations sur les mesures barrières comme une mesure de sauvegarde. On parle beaucoup de confinement partiel, total. Le premier confinement sur lequel on doit travailler individuellement et collectivement, c'est le port du masque. C'est la première mesure de confinement. La deuxième mesure, c'est le lavage des mains. On voit qu'il y a eu un fléchissement certain. Et trois, la distanciation. Je pense qu'il faut que chacun puisse faire vivre sa liberté d'aller et venir, mais en étant responsable de la propagation du virus. Je pense qu'il faut qu'on remette des distances entre chacun d'entre nous et que l'on puisse, en adulte responsable, protéger les plus faibles en respectant les distances, en portant le masque de manière plus systématique qu'on ne le fait aujourd'hui.
Et si Olivier Serre, le directeur de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, rappelle entre autres l'importance des gestes barrières, des médecins, eux, ont plaidé dans une tribune ce week-end pour la réduction au maximum des rassemblements dans le cadre privé. Mais pas sûr, Adrien Paluet, que ce soit réellement efficace.
Depuis le début de l'épidémie, les rassemblements dans des lieux clos, peu aérés, sont identifiés comme des accélérateurs de transmission du virus. D'où l'appel de ces médecins à limiter ces regroupements. Pourtant, selon l'épidémiologiste Catherine Hill, se priver de voir sa famille ou ses amis n'aurait pas un grand effet sur la propagation du virus.
C'est marginal finalement, parce que vous croisez des gens dans votre travail, dans les transports, en allant faire des courses, et aussi dans le cadre familial, et aussi en voyant vos amis. Donc ça limiterait les contacts juste dans un sous-ensemble de l'ensemble des contacts auxquels on est exposé. Donc c'est pas curieusement intéressant a priori.
Pour elle, une seule solution, avoir recours au dépistage.
Le fond du problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui combien de gens sont positifs et contagieux en France. Il y a vraiment urgence à changer de stratégie et à chercher les gens qui sont positifs sans symptômes, parce que c'est ceux-là qui font circuler le virus. Et ça veut dire un programme de tests massifs qui n'est pas du tout prévu à l'heure actuelle.
Dépister le virus en ciblant les personnes prioritaires grâce à des tests salivaires et collectifs. Tester, c'est aussi ce qu'a demandé l'Agence régionale de santé aux 2000 fêtards de Basse-Goulaine, près de Nantes. Ils étaient rassemblés tout le week-end pour une free party qui était pourtant interdite par un arrêté préfectoral.
Adrien Paluet, dans tout le pays, près de 7200 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, chiffre en baisse par rapport à ceux de samedi. Mais les chiffres du dimanche sont en général plus bas en raison du week-end.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Marc Potvin. En Israël, le nombre de contaminations est tel que le pays va se reconfiner.
Oui, pour une durée d'au moins 3 semaines. Paul Michel, c'est le premier ministre Benjamin Netanyahou qui a fait cette annonce.
Les services de santé ont hissé le drapeau rouge, a expliqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou, après près de 10 heures de débat et la démission d'un ministre ultra-orthodoxe. Le gouvernement israélien a tranché. Le reconfinement débutera vendredi prochain, à quelques heures seulement du début de la fête de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et se poursuivra pendant au moins 3 semaines. Il sera interdit de s'aventurer à plus de 500 mètres de son domicile. Les écoles, les hôtels, les centres de sport et la plupart des commerces non essentiels seront fermés pendant toute cette période. Les rassemblements seront limités à 10 personnes en intérieur et à 20 personnes en extérieur. Et dans les jours qui viennent, les règles pour les prières en groupe et pour les manifestations seront communiquées. Des mesures qui provoquent déjà la colère, notamment des restaurateurs et des hôteliers, en pleine saison des fêtes, et ils menacent de ne pas les respecter.
Michel Paul, en Russie, les résultats officiels d'élections régionales et locales partielles sont attendus aujourd'hui. Mais déjà, les alliés de l'opposant Alexei Navalny revendiquent des victoires dans 2 villes de Sibérie, notamment à Novossibirsk, la 3e ville du pays. À les entendre, elles tombent dans leur escarcelle. Le scrutin qui s'est achevé hier a surtout été marqué par une série d'irrégularités. Des irrégularités, Claude Brouillot, qui profite à un parti.
Russie Unie, la formation qui soutient Vladimir Poutine de façon inconditionnelle, perdra sans doute ici ou là une petite partie de sa représentativité au niveau local, comme en 2019. Mais le scrutin régional partiel de la fin de semaine dernière va rester marqué surtout, comme le référendum sur la réforme constitutionnelle, par un nombre grandissant de plaintes pour fraude en provenance des opposants au pouvoir. Le vote sur 3 jours officiellement pour raisons sanitaires a offert beaucoup d'opportunités de malversation dans des régions où les observateurs ont parfois été tout simplement empêchés de faire leur travail. Ainsi, les 2 premiers jours de vote, dits anticipés, ont donné lieu parfois à des taux de participation douteux, frôlant la moitié des électeurs inscrits. Une façon de contrer aussi la stratégie du camp d'Alexei Navalny d'inciter à voter pour le candidat le mieux placé pour battre les représentants du pouvoir.
Claude Brouillot, correspondant de France Culture en Russie. La Russie où se rend aujourd'hui le président biélorusse Alexandre Loukachenko, cible de nouvelles manifestations hier dans son pays. À Minsk, la capitale, elles ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. 400 d'entre elles ont été arrêtées. Alexandre Loukachenko va rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, qui promet une intervention en Biélorussie si les manifestations dégénèrent en violence. Donald Trump, lui, se rend dans la région de Sacramento, en Californie, ce lundi, l'un des 3 États de la côte ouest touchés en ce moment par de gigantesques incendies. En une semaine, 27 personnes sont mortes. Le président des États-Unis va rencontrer pompiers et secouristes. Pour expliquer ces feux, il met en cause la gestion des forêts par les autorités locales. Ses adversaires l'accusent une fois de plus de fermer les yeux sur le réchauffement climatique. Un héritier du gaullisme qui n'hésitait jamais à dire le vrai dès qu'il s'agissait de l'intérêt du pays pour Emmanuel Macron. Une figure majeure de notre famille politique pour le patron de LR, Christian Jacob. Les hommages sont nombreux après la mort hier de Bernard Debré, l'ancien ministre, ex-député, médecin aussi emporté par un cancer à l'âge de 75 ans. Un homme au verbe haut, Karine Bécard.
Bernard Debré va laisser le souvenir d'un trublion, surtout d'un provocateur dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Il savait parfaitement faire le buzz. La forme était souvent un peu excessive avec Bernard Debré, un peu brutale, mais sur le fond, l'ancien député avait souvent raison. Alors il est probablement le moins connu de cette famille politique au nom si illustre, son père, Michel Debré, le premier ministre du général de Gaulle, celui à qui l'on doit notre constitution de la 5e République, ce père à côté du quel Bernard Debré a siégé dans l'hémicycle lors de sa première élection en 1986. Il est aussi le frère jumeau même de Jean-Louis Debré, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien président également et plus récemment du Conseil constitutionnel. Évidemment, tout le monde le sait, un chiracien, la raison sans doute pour laquelle Bernard Debré avait choisi, lui, son rival, Édouard Balladur, lors de la présidentielle fratricide de 1995. Mais l'ex-maire d'Amboise était aussi et surtout, vous l'avez rappelé, un médecin. médecin. Comme son grand-père l'avait été avant lui, Robert Debray, Bernard était un urologue réputé, suffisamment pour avoir opéré l'ancien président François Mitterrand, dont il a aussi été le ministre, ministre de la coopération durant la seconde cohabitation.
Karine Bécard, le PDG de Veolia se veut rassurant. Il n'y aura aucune perte d'emploi si le numéro 1 mondial du traitement de l'eau et des déchets rachète son rival, Suez, dont le président a pointé hier un risque de plan social si Veolia parvient à ses fins. Chaque salarié sera repris avec l'intégralité de ses avantages sociaux actuels, assure Antoine Frérot dans le journal Les Échos. Une nouvelle fouille archéologique débute aujourd'hui dans les sous-sols du musée d'Aquitaine, où se trouve un mystérieux cercueil tombé dans l'oubli durant des décennies et redécouvert il y a 2 ans. Sur la paroi de ce cercueil se trouve une plaque en cuivre qui intrigue les chercheurs. Dessus, on peut lire le nom de Michel de Montaigne. Alice Cachaner, cette nouvelle fouille doit permettre de déterminer si les ossements à l'intérieur sont ceux du philosophe.
C'est la deuxième fois que les archéologues perturbent le repos du tombeau présumé de Montaigne. Une première fouille a eu lieu en novembre 2019 et elle donne bon espoir à l'historienne Anne-Marie Cocula.
Il y a un faisceau d'indices qui sont positifs. Il y a des faits convergents qui incite à penser que c'est lui.
Car lors de cette fouille, les scientifiques ont eu une belle surprise. À l'intérieur du cercueil de bois, un autre cercueil, ou plus précisément un sarcophage en plomb. La taille 1,60 m correspond à celle du philosophe et le matériau à sa notoriété.
C'est un cercueil en plomb. Vous savez que les cercueils en plomb, c'était réservé à des personnages importants.
Importants comme Montaigne, ancien maire de Bordeaux et humaniste reconnu déjà à son époque. Cette semaine, les scientifiques ouvriront également un autre objet découvert dans le sarcophage.
On a une bouteille avec un document à l'intérieur de la bouteille qu'on n'a pas encore ouvert, qu'on va ouvrir avec toutes les précautions d'usage avec les spécialistes.
Cette deuxième étape des fouilles permettra de procéder à des prélèvements ADN. Il faudra également déterminer à qui appartient le crâne retrouvé dans une seconde chambre funéraire. S'agit-il d'un autre individu? Comme l'écrivait Montaigne dans ses essais, mieux vaut pencher vers le doute que vers l'assurance.
Alice Cachaner, c'est un temps sec et globalement bien ensoleillé qui nous attend aujourd'hui. Et les températures maximales seront élevées entre 30 et 36 degrés localement, 37 ou 38 au sud de la Loire.